Les femmes dans l'action mondiale. Revue mensuelle éditée par le Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme. La journée internationale des femmes de mars 1935. Il y a une vingtaine d'années, une voix de femme dont le timbre sonore résonna longtemps dans les oreilles de celles qui l'avaient entendue appelait les femmes du monde travailleur à la lutte pour une vie meilleure. C'était la voix de Kara Zetkin. À la conférence internationale des femmes socialistes de Copenhague en 1910, elle déclarait que l'initiative prise par les femmes socialistes des États-Unis de consacrer chaque année aux revendications féminines une journée déterminée devait être élargie et adoptée internationalement. La femme qui travaille à l'usine, à l'école, au bureau, à la ménagère qui, en sa qualité d'intendant général des finances et de la famille, suit avec intérêt les luttes que son mari, son fils ont à soutenir pour leur salaire, leur travail, devrait prendre une part active dans les batailles pour de meilleures conditions de vie et de travail, pour l'émancipation de la femme. Kara Zetkin proposa la journée du 8 mars comme journée internationale des femmes où serait propagée la nécessité d'une lutte commune des travailleurs et travailleuses, manuels et intellectuels, et où les revendications particulières des femmes dans le domaine politique et social et économique seraient plus particulièrement défendues. L'idée prit corps plus rapidement qu'on ne pensait. Durant les 3 années qui précédèrent la guerre, les femmes travailleuses, celles dont la peur du cataclysme mondial serrait de plus en plus le cœur, se sont massées en nombre, toujours grandissant autour du drapeau du 8 mars. La guerre brisa cette unité qui ne connaissait pas de frontières. Mais lorsque l'internationale ouvrière et l'idée même de l'internationalisme semblaient être abolies pour toujours, c'était encore les femmes qui, à l'appel de Kara Zetkin, retrouvaient le chemin du rapprochement. En mars 1915, à Berne, en pleine guerre mondiale, alors que les nationalismes respectifs étaient chauffés à blanc par des fauteurs de guerre, alors que la suspicion la plus redoutable était jetée sur quiconque avait des relations avec les citoyens d'un pays « ennemis », des femmes allemandes, françaises, suisses, polonaises, russes, italiennes, hollandaises et anglaises sonnèrent le ralliement de toutes les femmes de bonne volonté pour mettre fin au massacre. Le peuple du travail de tous les pays n'est qu'un seul peuple. Seule la volonté unique du peuple est capable d'arrêter le massacre. L'écho de cet appel ne fut pas perdu et grandit avec la misère et la souffrance. En 1917, les femmes russes de Saint-Pétersbourg descendirent dans les rues pour y manifester contre la guerre, pour la paix, pour le pain. Et leurs cris ont fait trembler les vitres du palais impérial. Leur action fut le prélude de la révolution de février qui chassa le tsarisme. Après la guerre, les femmes communistes et les femmes socialistes ont repris la tradition de la Journée internationale des femmes, lui donnant chacune un contenu adéquat aux programmes respectifs de leur parti. Mais pendant ces années, dans le monde entier, partout sauf en URSS, le sort des femmes n'a fait qu'empirer. Les dictatures fascistes ont montré la voie de l'atteinte aux droits politiques, sociaux et économiques les plus élémentaires des femmes. Le spectre de la guerre est de nouveau venu hanter le monde. Alors, en août 1934, les femmes de tous les pays, de toutes les tendances et de tous les milieux sont venues dans un grand rassemblement faire le serment de lutter de toutes leurs forces et de toutes leurs pensées contre la guerre, contre le fascisme. Quand la charte revendicative et le manifeste furent adoptés à l'unanimité, toutes les déléguées furent remplies d'une grande allégresse. Ces mains de femmes, qui avaient pansé tant de plaies, calmé tant de fronts anxieux, qui s'étaient tordues dans la douleur, qui s'étaient déformées par le travail, toutes ces mains s'unissaient, se soutenaient, pour former la chaîne au solide maillon qui barrerait la route au fascisme et à la guerre. Après un tel rassemblement, les Journées internationales des femmes de cette année doivent revêtir le caractère de la plus large unité. Qu'à travers toute la France, qu'à travers tout le monde, dans la même journée, les femmes communient dans un même élan pour la lutte vers leur émancipation totale. C'est le vœu le plus ardent de notre Comité national des femmes contre la guerre et le fascisme. Claire Roch.
On va lire un article du journal Le Drapeau Noir, sous-titré « Organe anarchiste », de l'édition du dimanche 2 septembre 1883. Manifeste des nihilistes françaises. Que les hommes s'amusent à bavarder à perte de vue sur la Révolution, libre à eux. Les femmes nihilistes, lassées de tant d'atermoiements, ont résolu d'agir. Méditant l'anéantissement de la bourgeoisie, elles sont disposées à tous les sacrifices pour hâter la réalisation de cette entreprise. Elles puiseront dans la haine inextinguible qui les dévore la force nécessaire pour surmonter tous les obstacles. Mais comme ce projet grandiose ne peut s'exécuter en un jour, elles prendront leur temps, se réservant d'employer, de préférence, l'empoisonnement, et par intermittence, afin de venir plus facilement à bout de l'engeance maudite. Les femmes nihilistes suppléeront aux connaissances scientifiques et aux procédés de laboratoire qui leur font défaut par la mixtion à petite dose dans les aliments de leurs exploiteurs de substances délétères qui sont à la portée des plus pauvres et d'un maniement facile par les femmes les plus ignorantes et les plus inexpérimentées. Parmi 100 ingrédients d'un effet immanquable, nous citerons l'extrait de Saturne, qui s'obtient en quelques jours si on laisse séjourner du plomb en grenaille ou en morceaux dans du vinaigre. Des parcelles de viande corrompues, la ciguë, que l'on confond si souvent avec le persil, et qui croît partout, le long des chemins, sur le revers des fossés. Nous rendrons, du moins, à nos lâches oppresseurs, une partie du mal qu'ils nous font tous les jours. Nous supporterons plus gaiement la tyrannie, sachant que la vie de nos ennemis est à notre merci. Ils veulent être les maîtres, qu'ils en subissent les conséquences. Déjà depuis 3 ans que la Ligue existe, plusieurs centaines de familles bourgeoises ont payé le fatal tribut, dévorées par un mal mystérieux que la médecine est impuissante à définir et à conjurer. À l'œuvre donc, vous toutes qui êtes lasses de souffrir et qui cherchez un remède à vos misères, imitez les femmes nihilistes.
Eh, monsieur, me voilà reparti dans un sujet tant de fois débattu, à savoir la difficulté d'être militante dans un groupe où il y a une majorité de militants. La difficulté, je devrais dire les difficultés. Mais il vaut mieux que je vous raconte ma dernière réunion mixte. Nous étions 4, 2 filles, 2 garçons. Nous parlions d'un texte écrit par l'un des garçons. La copine se levait à 5 heures le lendemain, habitait à l'autre bout de Paris, bref, elle est partie avant la fin de la réunion. Et je suis restée seule représentante de mon sexe. Je n'ai pas dit grand-chose à cette réunion. Pourtant, pour une fois, j'y étais venue sans appréhension. Le sujet du texte m'intéressait beaucoup. D'ailleurs, pendant la première demi-heure, j'ai tout de même participé. Mais vous connaissez, les hommes qui parlent et ne regardent que ceux de leur sexe. Vos phrases qui ne rencontrent que leur indifférence ou leur incompréhension. À certaines de mes interventions jugées sans intérêt, on a répondu « C'est pas ça, mais… » pour dire exactement la même chose avec d'autres mots. Et ces mots-là devenaient tout d'un coup pleins d'intérêt. Je suis toujours épatée dans ces réunions par l'assurance des hommes. Ils connaissent tout. Ils ont un avis sur tout. Et comme ils se prennent au sérieux les uns les autres. Bref, dans ces réunions, j'en arrive à douter de mon existence. Et surtout, je me pose la grosse question. Pourquoi est-ce que je milite avec des gens qui ne me considèrent absolument pas? C'est dur de voir des copains vous mépriser, car ce sont des copains, très sympathiques et tout et tout. L'un d'eux est même mon copain, comme on dit. J'ai tellement gueulé déjà à tant de réunions, j'en ai déjà tellement gâché, et pour ne voir aucun changement, que je ne sais plus comment réagir. Alors je me tais complètement, je ne les regarde même plus, j'attends que ça passe, espérant que mon attitude complètement passive va tout de même les choquer. Mais non, ils ne la remarquent même pas. Le problème pour moi est de savoir ce que je peux espérer faire d'intéressant avec eux dans ces conditions, et s'il est réellement possible de militer avec des hommes. S'il est possible de rester dans un groupe dont je suis exclue de fait. J'emploie la première personne pour plus de commodité, mais je sais très bien que c'est le problème de la plupart des militantes. Je ne sais pas quoi faire. En quittant ce groupe, j'aurai l'impression de renoncer à quelque chose auquel je tiens. C'est trop bête. Mais c'est de plus en plus intolérable et il arrive toujours un moment où l'on est forcé de partir. Marie-Hélène.
On va lire un extrait de L'Humanité, le journal de l'organe central du Parti communiste, fondé par Jean Jaurès. Et c'est l'édition du dimanche 8 mars 1925, avec en tête un dessin qui dépeint des femmes en voie de briser les chaînes qu'elles ont au bras, et qui est titré, je cite, « Semaine internationale de la femme ». D'abord une colonne qui décrit l'histoire du 8 mars. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des travailleuses. Elle fut instaurée en 1910 par une conférence internationale des femmes socialistes qui décida que cette journée devait être consacrée par les partis socialistes de tous les pays à la lutte pour le droit de vote des femmes. Depuis, la guerre mondiale et la victoire des travailleurs russes sur la bourgeoisie ont considérablement changé la situation des travailleuses et les conditions de lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. La cherté de vie, la crise des loyers, les bas salaires, les impôts indirects et l'impôt sur les salaires, la baisse du franc, autant de moyens pour vous faire payer les frais de guerre et pour permettre à la bourgeoisie de conserver son luxe et de préparer une guerre nouvelle. Et l'encadré appelle aux travailleuses, ouvrières, employées, fonctionnaires, ménagères, travailleuses de France. Les maux dont nous souffrons. Les bas salaires féminins, les allocations de vie chère et de chômage encore moindres que pour les hommes, la longue journée de travail, le travail supplémentaire, le travail de nuit, le travail dans les métiers insalubres, la non-protection de la maternité et de l'enfance par la loi, le renvoi des ouvrières enceintes et des jeunes mères, pas de congés et d'indemnités suffisants avant et après l'accouchement, pas de chambre d'allaitement et de garderie d'enfants dans les usines et les municipalités, la nécessité d'envoyer nos enfants en nourrice où la majorité meurt, l'avortement étant puni par la loi, des centaines de milliers de femmes ont recours à des manœuvres clandestines qui leur coûtent la santé et souvent la vie, l'inégalité en droit civique avec l'homme, l'absence de droit politique. Et nos revendications. Salaire. 1. Pas de salaire au-dessous de 20 francs par jour et qui devront être augmentés suivant l'augmentation de l'indice du coût de la vie. 2. À travail égal, salaire égal. 3. Égalité des allocations de vie chère et de chômage avec les hommes. Heures de travail. 4. La stricte application de la journée de 8 heures pour toutes les salariées, y compris les gens de maison. 5. Suppression des travaux supplémentaires aux 8 heures et du travail de nuit. Hygiène et vacances. 6. Contrôle des conditions de travail par les élus des ouvriers et ouvrières. 7. Vacances payées à salaire entier par l'employeur, de 2 semaines après 6 mois et d'un mois par an à partir d'une année de service. Maternité. 8. Congé obligatoire de 3 semaines avant et de 8 semaines après les couches avec maintien du salaire intégral. 9. Création de chambres d'allaitement et de garderies d'enfants dans toutes les entreprises occupant plus de 30 femmes, sous le contrôle des commissions composées de représentants de la commune, des syndicats et des ouvrières. 10. Défense de congédier les femmes enceintes à partir du 4e mois de la grossesse et des mères allaitant leurs enfants. 11. Allocation pendant toute la durée de l'allaitement de 25% du salaire moyen de la localité. 12. Création d'un nombre d'institutions d'enfants suffisant pour supprimer complètement l'envoi en nourrice. 13. Création d'un nombre suffisant de consultations pour les femmes enceintes et les nourrissons, médicaments et hospitalisations. 14. Soins médicaux et hospitalisations gratuites pour toutes les mères travailleuses et leurs enfants. Égalité de droits. 15. Pleine égalité des droits civiques et politiques avec l'homme.